J'ai réduit totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Capi pour vous tenir compagnie. Nous vous proposons votre magazine d'échange citoyen parole aux auditeurs. La Banque mondiale annonce avoir suspendu son assistance technique et financière au projet Inga 3. Certains observateurs estiment que cette décision de la Banque mondiale va notamment compromettre la réalisation de ces projets. Une autre opinion pense plutôt que pour éviter des conséquences sur ces projets salutaires pour la population, le gouvernement congolais devrait poursuivre des discussions avec cette institution des Bretton Woods. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-7315 pour une intervention en direct. Mais le débat, c'est également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Dieudonné Nyangasa est à la mise en onde de ce magazine. Marcel Ngombomba à la Kiba est au standard et à la réalisation. Et Piero Lamegi a le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Martin Seboujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux Auditeurs, 081-890-7315 ou par internet pa@radiotapi.net. Parole aux auditeurs, Piero et la Mégie.
La décision et l'annonce de cette décision par la Banque mondiale de suspendre son assistance technique et financière au projet Inga 3 se recentre de notre échange dans cette émission. Et pour réfléchir ensemble, dégager des pistes et des solutions, les tenants et les aboutissants de ce projet, nous recevons dans ce studio Tite Liongui, expert suivi, évaluation et communication à la cellule de gestion du projet Inga 3. Monsieur Liongui, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ces studios. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourriez-vous nous parler en bref du projet Inga 3, en bref, en quelques lignes?
Merci beaucoup, Piero, de cette opportunité. Le projet Inga 3, c'est un projet très congolais, c'est qu'il faut d'abord souligner. Le gouvernement congolais, qui a la mission pratiquement de chercher le bonheur de la population, a initié ce projet dans le cadre de l'électrification de notre beau pays. Comme vous savez, il faut chercher le moyen pour développer les industries, participer à ce que la population puisse accéder à l'électricité. Le gouvernement congolais a initié ce programme. Et comme vous savez, le gouvernement congolais n'est pas seul. Il est chaque fois accompagné de ses partenaires au développement. Là, nous faisons allusion à la Banque africaine de développement, à la Banque mondiale, KfW, tous les partenaires que vous connaissez. On s'associe au gouvernement congolais afin de voir dans quelle mesure on pourra développer le potentiel hydroélectrique du complexe Inga. Tombleu, parmi le premier partenaire à répondre à l'invitation du gouvernement congolais, il y avait la Banque africaine de développement qui a financé une enveloppe consistante dans le cadre des études de préfaisabilité. Et l'étude de préfaisabilité a donné l'opportunité aux Congolais de développer le projet Inga 3 par phasage. Comme vous savez, les anciennes études renseignaient qu'il fallait du coup construire le potentiel, construire la centrale hydroélectrique d'Inga avec au moins une bagatelle d'enveloppe au-delà pratiquement de 80 milliards à 100 milliards de dollars. Chose que le gouvernement congolais ne pourra pas réunir du coup, et même que ses partenaires aussi qui peuvent accepter avec 100 milliards de dollars. Et au moins les nouvelles études de préfaisabilité telles que financées par la Banque africaine de développement a conseillé au gouvernement congolais de développer le projet Inga, Grand Inga, dans son ensemble par phasage, en commençant par la première phase dite Inga 3 Bashit, avec comme puissance installée 4800 MW. Ensuite, on va passer à Inga 3 au-dessus jusqu'à atteindre la puissance maximale. Les études de possibilité ne suffisent pas pour rendre fiable le projet. Mais du moins, on sait que le projet est déjà lisible. Donc, le partenaire peut venir s'associer au gouvernement congolais pour non pas seulement donner la population congolaise du courant, mais également en tant qu'un projet intégrateur. Et la Banque africaine, vous le savez, c'est une banque régionale qui vient chaque fois appuyer les initiatives de pays qui tentent à éliminer la pauvreté au niveau de la sous-région. Et le projet Ingapa fait partie de ce projet qui a séduit pratiquement cette institution financière. La Banque mondiale s'est présentée en tant que deuxième institution financière pour appuyer les études de faisabilité. Seules les études de faisabilité ne donnent pas de meilleure option légale pour assurer une construction. Parce que ce qui est vrai, c'est que il faudra que le partenaire ou le gouvernement congolais arrive à maximiser, comme les études renseignent, 8 à 12 milliards de dollars pour la construction de la première phase d'Inga 3 Bachi. Et la Banque mondiale vient maintenant, en tant que partenaire aussi important du gouvernement congolais, pour financer deux phases. Premièrement, on dit la composante A qui est dite Grand Inga dans son ensemble, et en second lieu, nous disons des centrales de moyenne puissance. Pourquoi cela, monsieur le journaliste? Simplement parce que vous savez qu'il y a certaines zones qui ne vont pas bénéficier des services du Grand Inga. Et voilà pourquoi, en parallèle, on a développé une autre possibilité, pour ne pas dire une autre option, à travers des centrales de moyenne puissance, c'est-à-dire dans des régions qui ne vont pas bénéficier de l'énergie provenant du Inga, peuvent développer des systèmes de centrales de moyenne puissance, c'est-à-dire de 30, 50 à 150 MW, même 200 MW. Et voilà pratiquement le bien fondé de ce projet. Et la Banque mondiale vient, premièrement, à ce qui concerne la réalisation des études complémentaires. Les études complémentaires enseignent que pour réellement avoir des bons ouvrages, avoir des infrastructures durables de développement, les conseils nous renseignent, il faut qu'il y ait l'analyse géologique et géotechnique du sol au niveau de la fondation du barrage, comme vous savez. Pour la construction de la centrale, il faut d'abord qu'il y ait barrage. S'il y a barrage, et sachez qu'il peut y avoir des impacts négatifs.
Mais l'engagement de la Banque mondiale, je vois ici qu'en 2014, la Banque mondiale avait approuvé un don de 73 millions de dollars. Est-ce que la Banque mondiale avait déjà décaissé l'argent dans toutes ces autres phases avant le retrait?
Effectivement, la Banque mondiale a décaissé. Au niveau de la cellule gestion Inga 3, ex-cellule gestion Inga 3, on a recruté les personnels qui devaient gérer. Là, je fais allusion à un expert financier, à un auditeur, à un comptable et également le coordonnateur. Pratiquement, ce sont les quatre personnes clés. La Banque mondiale a décaissé les fonds. Les fonds, au moment où nous parlons, on a recruté au niveau du patron de marché les experts qui sont déjà sur terrain. Il y a un panel d'experts, deux panels d'experts qui travaillent déjà, un sur les études géostratégiques, les autres travaillent pratiquement sur la qualité du sol et également voir dans quelle mesure on peut travailler sur...
Mais alors, quelles sont les raisons évoquées par la Banque mondiale, les raisons qui ont milité, bien sûr, à la suspension de ça? Qu'est-ce que la Banque mondiale reproche effectivement à la RDC?
J'aimerais plutôt que nous puissions faire un débat de fond. Si vous avez le communiqué, nous pouvons lire ensemble.
Voilà, la Banque mondiale dit que le gouvernement a donné une autre orientation stratégique que l'orientation qui a été négociée d'une manière initiale. Voilà, mais c'est là où se trouve le problème. Les auditeurs voudraient savoir, mais la Banque mondiale dit bon, on a donné une autre orientation, c'est pour cela qu'on se retire. Mais quand on se retire d'un projet comme celui-là, cela veut dire qu'il y a effectivement des conséquences.
Effectivement, la Banque mondiale, comme tu as dit, dans son communiqué, nous avons tous suivi. J'insiste que je ne suis pas le porte-parole de la Banque mondiale.
Oui.
Je suis un expert congolais et je vais apporter ma petite contribution pour voir dans quel mesure on peut concilier
les uns et les autres.
Et
si nous nous en tenons à ce que la Banque mondiale dit, il y a une autre orientation stratégique différente de celle qui a été convenue en 2014 entre le gouvernement et la Banque mondiale. Mais nous allons rester dans ces concepts et les conséquences. Dès lors maintenant que la Banque mondiale décide de suspendre cette assistance, alors quelles sont les conséquences pour le projet Inga 3?
Avant de parler des conséquences, j'aimerais plutôt revenir à votre première question, parce qu'on n'a pas répondu à cette question. Pourquoi est-ce que la Banque mondiale doit partir, son importance? La Banque mondiale, comme je vous ai dit en amont, c'est un partenaire au développement. Ne vous en faites pas. Le projet Inga 3 en tant que Congolais, c'est un projet stratégique. Et sur le plan politique, j'aimerais plutôt conseiller, et on conseillera toujours aux partenaires, aux Congolais, à tous ceux qui nous suivent, que ici, dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, gare, il est toujours conseillé au gouvernement, conseillé aux Congolais, d'avoir des partenaires sûrs. Et même sur le plan politique, qui peut vous faciliter à atteindre vos objectifs. Ça, on ne doit pas se voiler le face. La Banque mondiale s'est dit, je me retire simplement parce qu'il y a une autre orientation qui a été donnée à ce qui a été dit. Et monsieur le journaliste, ensemble avec vous, je crois que la Banque mondiale, c'est une unité financière. Et aujourd'hui, comme vous êtes là, vous êtes journaliste, aucun pays ne peut se développer sans avoir un crédit ou une ligne budgétaire quelque part. C'est ça. Et la Banque mondiale offre des opportunités comme la Banque africaine de développement. Avant d'avoir cette opportunité, il faut obéir d'abord à un certain critère, ce qu'on dit critère d'éligibilité. Est-ce que le gouvernement congolais a accepté des conditions telles que prescrites par la Banque mondiale? Ça fait partie du contrat, des conventions. Par rapport aux conventions, il y a le manuel des procédures qui est placé. Le gouvernement congolais est tenu de lire à fond, de comprendre. Quand on parle du gouvernement congolais, nous faisons allusion aux experts, aux représentants du gouvernement congolais. En cette matière, c'est le ministre des Finances, le ministre des Finances avec le ministre technique, le ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Énergie s'est fait associer avec le ministre de l'Environnement et autres experts que vous savez, qui vont conseiller au gouvernement. Au-delà du conseil, on donne même, on ajoute au gouvernement congolais, le conseil technique, qu'on dit les avocats d'affaires. Là, ce sont le bureau extérieur qui se sont spécialisés en matière de conseils. Comme vous savez, on n'a pas encore fait de grands projets en cette matière. Donc, il y a une ligne qui a été faite. Nous disons, pour le développement du projet Inga 3, nous sommes ensemble. Aucune décision ne peut être prise sans pour autant consulter l'autre partenaire. Et d'ailleurs, chaque mois de février, il y a une réunion d'évaluation auquel on met ce qu'on appelle, au-delà des feuilles de route, il y a également le document stratégique où les sénateurs ont apposé pratiquement leur volonté, disant que les prochaines étapes vont se faire comme ça. Et la Banque mondiale a constaté qu'effectivement, lors des dernières décisions, le gouvernement congolais ne l'a pas consulté pour donner une autre orientation au projet Inga 3. Laissez-moi vous dire rapidement que...
Rapidement, oui. Il y a beaucoup d'auditeurs qui se bousculent là au niveau de notre standard.
La gestion du projet Inga 3, il y a d'abord, à l'époque, il y avait une cellule de gestion du projet Inga 3, où il constituait des experts. À côté, il y avait la CFI. La CFI, c'est au niveau du ministère de l'Énergie. C'est le ministre de l'Énergie qui était le patron. Et ensemble, il y avait tous les experts du ministère concerné, environnement, primature, président de la République. Et au-delà, maintenant, une autre structure qu'on appelle CODESI, où lui-même, le premier ministre, présidait les recommandations. Donc, comprenez comment est-ce que le gouvernement congolais était suffisamment représenté dans la gestion du projet Inga 3. Et la Banque mondiale se pose des questions. À quoi constituer toutes les structures que nous avons placées pour qu'aujourd'hui, le projet Inga 3 puisse avoir une autre réorientation?
On va revenir, il y a beaucoup de choses, il y a même aussi parmi d'autres choses reprochées au gouvernement, c'est en termes aussi des dénominations des animateurs. Je vois que la Banque mondiale qui dit, mais écoutez, dans notre manuel, tout celui qui doit animer la structure, il doit passer par un concours, mais là on reproche au gouvernement d'avoir nommé des animateurs qui dépendent directement de la présidence de la République sans pouvoir passer par... Mais le grand problème aujourd'hui, c'est la conséquence de cette suspension et l'intérêt de ce projet pour la population. On va revenir à vous. Le temps d'écouter les auditeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup qui se bousculent au niveau de notre standard. Alain, vous êtes à Mambasa. Alain, je vous ai vu tout à l'heure sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, Alain, où vous avez dit le problème de la Banque mondiale, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi la crédibilité même du projet. Alors, quand la Banque mondiale se retire, cela entend complètement la crédibilité du projet pour d'autres partenaires. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Alain? Vous nous appelez de Mambasa.
Mambasa, hier, c'est à peine que je viens d'arriver à Bounia. J'ai réaffirmé ce que j'ai dit, parce que la banque mondiale joue plusieurs rôles à la fois. Et le rôle le plus essentiel pour nous, au stade actuel, c'est la crédibilité du projet. Lorsqu'on voit la présence de la Banque mondiale ou l'apport de la Banque mondiale, et bien les partenaires financiers peuvent venir facilement du simple fait que la Banque la Banque mondiale va crédibiliser ce projet. C'est-à-dire ça va donner une sorte de garantie aux potentiels investisseurs. Alors, le fait que la Banque mondiale s'est désengagée dans ce projet, et bien là, ça donne une autre image, en fait. Ça lance un autre message. C'est-à-dire que la Banque mondiale n'a pas vu le sérieux dans ce que nous faisons. Alors, cela risquerait d'avoir une implication sur la capacité de financement, comme nous le savons. La plupart des partenaires, avant de venir investir dans notre pays, eh bien, ils se réfèrent aux statistiques ou aux données de la Banque mondiale. Donc, cela fait avoir des implications, même sur notre capacité à mobiliser les fonds.
Mais alors, il y a les auditeurs, vous avez suivi notre invité, il disait tout à l'heure qu'il faut privilégier plus de discussions entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale pour qu'on arrive quand même à résoudre cette question. On sait l'importance du projet INGA 3, mais à ce jour, l'invité a expliqué les différentes structures qui ont été créées et même que la Banque mondiale reproche au gouvernement d'avoir désigné des animateurs sans passer par le concours tel que c'est stipulé dans le manuel de contrat entre les deux parties. Pensez-vous que, au nom de la souveraineté, le gouvernement congolais puisse aujourd'hui revenir à la table des négociations avec la Banque mondiale pour qu'on trouve une issue de sortie qui puisse permettre à ce que ce projet soit développé à l'heure?
Il est vrai que nous pouvons être en conflit d'intérêt entre la Banque centrale et la Banque mondiale et nous. Ce qui est important, c'est un projet qui était conçu pour dire si mon par la communauté internationale, parce que comme votre invité l'a dit, c'est un projet intégrateur qui nécessite à ce que la plupart des pays puissent en venir.
Dommage qu'on a des soucis des lignes avec Alain qui est à Bounia. Il est arrivé, vient d'arriver à Bounia, peut-être avec le mouvement et le déplacement. Mais Alain estime, comme on le disait tout à l'heure, que c'est une question de crédibilité. Alors, faudrait-il discuter qu'il y ait des discussions entre le gouvernement et la Banque mondiale, parce que la présence de la Banque mondiale rend ces projets crédibles. On peut mobiliser d'autres ressources à travers la présence de la Banque mondiale. Merci beaucoup, Alain. Rudy, vous êtes à Bombachi ou à Kinshasa? Rudy, bonjour.
Bonjour, je suis à
Lubumbashi. Vous êtes à Lubumbashi, Rudy. Alors, vous avez suivi Alain qui disait tout à l'heure la présence de la Banque mondiale, c'est très important pour la crédibilisation du projet. Mais le problème lui-même, c'est le besoin d'avoir ce projet INGA 3, l'intérêt qu'a la population congolaise aujourd'hui dans l'accès à l'électricité, quand on sait notre pourcentage de dessertes en électricité, mais aussi la sous-région, parce que c'est une source de capitaux pour le pays. Alors, comment on peut arriver à concilier le point de vue, Rudy, autour de cette question?
Pour moi, je dirais, en bref, c'est le respect de ce que nous avons, de ce que nous nous sommes convenus avec, de ce que mon gouvernement s'est convenu avec la Banque mondiale. Alors, il y avait une orientation stratégique, mais aujourd'hui, la Banque mondiale juge que cette orientation stratégique est différente de celle qui avait été convenue en 2014 entre le gouvernement et la Banque mondiale. On accuse encore Washington, l'institution de Bretton Woods, il y a encore quelque chose. Il y a le pot aux roses. Cela veut dire quoi? Washington s'est dit indigné des honoraires paraménés perçus par les trois conseils chargés de l'étude du projet. Il y a un cabinet d'avocats américains, il y a la Banque des Affaires Lazard et la Société de Conseil en Ingénierie, Rastobel. Ces honoraires sont exprimés disproportionnés par rapport à la pratique habituelle. Pour moi, ici, je vois que ces trois conseils chargés d'études de ce projet ont peut-être surfacturé leur facture en collaboration avec notre gouvernement, ce qui ne plaît pas à la Banque mondiale. Voilà pourquoi aujourd'hui la Banque mondiale a décidé de suspendre son financement.
Alors, pour vous, vous estimez que vous avez ajouté une dimension, c'est l'inquiétude par rapport aux honoraires faramineux que qu'aurait perçu les trois conseillers. Vous avez évoqué des cabinets, vous estimez qu'avec ça, la Banque mondiale n'estime pas qu'on peut évoluer dans ce sens. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la chance à accorder au projet, ou bien le gouvernement congolais, dans sa souveraineté, peut décider aujourd'hui de conclure d'autres partenariats avec, on peut dire, d'autres partenaires à travers le monde pour la réalisation de ce projet érudit?
Oui, M. Gilles, je vois que la Banque mondiale reste déterminée à aider la RDC à fournir une énergie abordable et fiable à sa population, ainsi pour promouvoir des sources de croissance économique durable. Je pense ici que la Banque mondiale, elle est prête à continuer avec son don, mais il faut que de notre côté, du côté de notre gouvernement, que nous puissions revenir en arrière, donc revenir à notre décision qui est différente par rapport à celle prise auparavant avec la Banque mondiale.
Mm-hmm.
Si la Banque mondiale, elle est toujours prête, elle ne peut pas nous lâcher comme ça. Elle est toujours prête parce que avec ce projet d'Inga 3, non seulement que la population va en bénéficier, il y a aussi la population congolaise va en bénéficier. Il y a aussi les étrangers. Il y a aussi le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'autre projet suivi de la Banque congolaise. Il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud qui ont besoin de ce courant-là. Alors, si aujourd'hui la Banque mondiale suspend son financement, le don, alors il y aura toujours des conséquences. Alors, moi, je demanderai à mon gouvernement de revenir en arrière pour la bonne marche de
ce projet. Merci beaucoup, Rudy. Vous estimez qu'il faudrait que le gouvernement revienne s'il y a des erreurs à corriger, qu'on corrige ces erreurs, parce que la Banque mondiale, dans son communiqué, reste déterminée à pouvoir accompagner la RDC. Pour vous, c'est mieux que le gouvernement revienne. Merci beaucoup, Rudy. Vous êtes à Lubumbashi. Joël, vous êtes ici à Kinshasa. Je vous ai dit tout à l'heure sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, Joël. Pensez-vous que la RDC, elle peut s'en tenir, comme le disait Rudy, à discuter avec la Banque mondiale pour revoir ou bien les libres de pouvoir signer d'autres partenariats, conclure d'autres partenariats à travers le monde, hein? Y a-t-il d'autres institutions ou d'autres pays qui peuvent financer les projets Inga 3, Joël?
Oui, la RDC peut toujours conclure avec d'autres partenaires. Et j'ai dit aussi, comme vient de le dire mon ami, là, la RDC peut aussi revenir en arrière et réparer avec la Banque mondiale. Mais au cas où la Banque mondiale persiste dans sa décision, moi j'estime que la RDC est un grand pays qui dispose de ressources importantes et suffisantes et elle peut continuer seule avec ce projet parce que c'est un projet délicat, capital, non seulement pour la RDC, aussi pour l'Afrique. Et le seul retrait de la Banque mondiale ne doit pas conduire à l'arrêt des projets qui sont importants pour celui de l'Inga 3.
Voilà. Joël, mais Alain disait tout à l'heure de la présence de la Banque mondiale comme une forme de crédibilisation du projet. Mais si la Banque mondiale reproche au gouvernement congolais d'avoir pris des décisions ou des orientations en dehors des clauses de principes fixés dans les manuels de contrat, ne pensez-vous pas là que si la RDC se tourne vers d'autres partenaires ailleurs et qu'il y ait ces faiblesses qui nous ont été reprochées par la Banque mondiale, ça sera aussi une occasion de pouvoir nous encourager à évoluer? Si par exemple il faut nommer les gens sans suivre la procédure de concours et que nous ne sommes pas avec la Banque mondiale, ça sera peut-être la liberté de continuer à nommer ou soit d'orienter les projets d'une manière aussi qui risque de ne pas rendre les projets fiables lui-même pour qu'on ait des résultats escomptés.
C'est pourquoi dans la page Facebook, j'ai insisté sur l'aspect sérieux. Donc, il suffit seulement de mettre du sérieux là, avec la détermination et une volonté politique. Que ce soit avec les partenaires ou sans partenaires, on peut toujours arriver à bon port avec ce projet Inga 3.
Merci beaucoup. Vous estimez qu'il faut être du sérieux. Eric Mwamba, qui est avec nous sur la page Facebook, dit ceci: la Banque mondiale a raison. Parce qu'il n'y a pas la volonté politique à RDC de pouvoir travailler dans la transparence, hein, quand on se rend compte qu'on puisse prendre des décisions, les orienter autrement, cela relève de la mauvaise gestion au niveau de nos institutions. Il y a aussi Massa Kivukarume qui est à Butembo. Il dit le gouvernement congolais est capable en soi de pouvoir achever ses grands projets à partir de la mobilisation interne des ressources, mais notre problème réside au niveau de l'absence de la volonté politique et notre capacité de pouvoir nous suffire nous-mêmes. Il y a Chico Basaki Sakananga qui dit ici de signaler que le non-respect des consignes est à la base de cette décision de la Banque mondiale. Le projet Inga 3 étant crucial pour la population congolaise, les gouvernements devaient chercher à tout prix à pouvoir se débarrasser des pratiques qui ont fait que la Banque mondiale se retire de ces projets. Et Félicien, vous nous avez rejoint tout à l'heure ici à Kinshasa. On revient un peu à ce que vous avez toujours dit hein, dans cette émission, chaque fois quand vous intervenez, vous revenez sur cette question du sérieux, de la volonté politique, du changement. Quand je vois les réponses, on évoque cette question d'avoir nommé des animateurs sans recourir au concours tel qu'il est dessiné par le principe de tout ça. Mais pensez-vous que la Banque mondiale se retire, on peut se tourner ailleurs, ça peut nous aider à évoluer et réaliser ce projet qui est crucial pour la population, mais aussi pour l'Afrique?
Pierre, je commence par vous saluer et saluer les auditeurs de Radio Okapi et l'invité qui est avec vous aussi. Et moi, je pense que notre pays n'a rien à gagner à vouloir s'opposer à la ligne de conduite de la Banque mondiale. Et ce que la Banque mondiale nous reproche, c'est ce que nous vivons déjà ici. Qu'est-ce que nous avons à gagner à nommer des animateurs? On a déjà nommé des animateurs dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'institutions. Le résultat est ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est la misère, c'est la pauvreté partout. Et la Banque mondiale, si elle construit ses barrages, et au fil des années, nous allons rembourser ce qu'elle nous aura donné plus tôt. Et après, c'est des générations qui vont bénéficier de cela. Et alors, pourquoi nous devons nous créer des problèmes parce que seulement nous voulons nommer des animateurs? Qu'est-ce que nous gagnons en nommant des animateurs? Alors que nous avons des animateurs qui sont ici, qui nous posent déjà problème. Nous avons un problème d'hommes dans notre pays. C'est le moment de commencer à chercher comment les autres peuvent venir nous aider. L'essentiel, c'est que nous puissions donner le mieux-être à notre population. Pourquoi est-ce que notre gouvernement doit s'obstiner à faire ce qu'il est en train de faire? Et puis, en plus, moi, je vous dis, ce projet de la Banque mondiale est un projet intégrateur, ça concerne toute l'Afrique. Mais si nous voulons vraiment développer notre pays, nous avons un réseau de rivières, de cours d'eau partout, mais commençons par des micro-barrages, des centrales et tout ça, pour développer l'arrière-pays. Et les projets intégrateurs et qui demandent beaucoup d'argent, ça ne sort pas à la Banque mondiale et l'ensemble des bénéficiaires des pays africains. Moi, je pense que si on a la volonté de développer le pays, on doit savoir se soumettre parce qu'on sait que les bénéfices restera pour le peuple congolais.
Et pour les générations futures. Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez que nous n'avons pas l'intérêt aujourd'hui à nous mettre à dos la Banque mondiale, pas en termes de nous mettre à dos, mais bien sûr être en désaccord avec la Banque mondiale sur ces projets. On peut bien évoluer ensemble parce que nous, on a déjà un problème d'hommes, que ce soit ceux qui peuvent être nommés comme animateurs pour gérer l'ensemble des structures. On a déjà beaucoup de problèmes et des difficultés. Merci beaucoup, Félicien. Alphonse, vous êtes à Arou, vous gardez la ligne de Maître Adrien, qui est à Kananga. On va revenir dans ce studio pour que notre invité puisse réagir. Je rappelle encore que c'est une question de la Banque mondiale qui s'est retirée du projet Inga 3. C'est au centre de notre échange. Comment on peut arriver à remonter la pente, parce que le projet il est important, et comment le réussir, c'est la question au centre de notre échange. 081-890-7315 pour intervenir en direct.
Votre connexion internet est trop lente? RadioOkapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. RadioOkapi.net à votre service. Parole aux auditeurs.
On revient dans ce studio à vous, Tite Lundi. Vous êtes expert, suivi, évaluation, communication au projet, à la cellule de gestion du projet INGA 3. Vous avez suivi les uns et les autres. La plupart de nos auditeurs estiment que c'est pas le temps de pouvoir chercher à être en désaccord avec la Banque mondiale. Il faudrait discuter, il faut revenir, il faut se conformer au principe. Mais la question par rapport aux conséquences n'avait pas d'abord été abordée. Et si vous pouvez placer un mot rapidement, quand la Banque mondiale s'est retirée, quelles sont les conséquences pour la réalisation du projet INGA 3? Et puis vous placez un mot par rapport aux inquiétudes de nos auditeurs.
Merci beaucoup, Pierrot. Je crois que si la Banque mondiale s'est décidée de se retirer, les inquiétudes par rapport à la conséquence, c'est vrai que ça peut être inévitable, tout comme on peut éviter pratiquement le risque lors de l'exécution du projet. Pourquoi je dis cela? Simplement parce que vous savez que la Banque mondiale, ce qui est vrai, c'est qu'elle n'est pas le seul partenaire au développement pour le projet. Ça, d'abord, c'est qu'on sait le principe. Mais également, la Banque mondiale fait partie des partenaires aussi sérieux. J'ai dit sérieux et fiable. Simplement parce que lorsque la Banque mondiale s'invite dans un projet, dans un processus de développement, ne vous en faites pas, elle a la capacité de se faire entraîner des millions de dollars et convaincre même de fonds arabes. La conséquence, comme tu as dit, aujourd'hui, il y a des experts qui sont déjà sur terrain. Ils travaillent déjà. Des contrats signés avec le gouvernement congolais sous les dons de la Banque mondiale, parce qu'on parlait du financement, il faut bien préciser, c'est un don. Mm-hmm. Un don qu'on a donné au gouvernement congolais pour rendre le projet attractif, c'est-à-dire démontrer que le projet INGA 3 n'a pas cet impact négatif sur la population. Le projet INGA 3 va faciliter à ce que nous puissions éliminer la pauvreté, non pas seulement en République démocratique du Congo, également pour l'Afrique. Le projet INGA 3 viendra booster l'économie à travers l'industrie minière, pas seulement du Katanga, et d'autres pays de la sous-région. Et également, le projet INGA 3 va au-delà de ça, permettre à ce que de provinces qui ne vont pas bénéficier des services de INGA, tels que Mbandaka, tels que Tchopoué et consorts, on va développer des micro-centrales, c'est-à-dire des centrales de moyenne puissance, rien qu'avec cet argent. Et avec cet argent, on peut les orienter pour d'autres dépenses. Mm-hmm. Donc, les conséquences dont nous parlons, c'est qu'il y a un peu d'argent qui est resté où la cellule de gestion, où les gestionnaires actuels du projet INGA 3 payent encore ceux qui sont en contrat avec la République démocratique du Congo. Et dès que le financement, comme on a dit, de 6,5 millions qui a été décaissé, terminé, et que nous ne terminons pas encore les discussions avec la Banque mondiale, le gouvernement congolais est tenu, j'insiste bien, de payer à tous ses prestataires. Parce qu'on dit que les contrats sont signés au nom du gouvernement congolais.
Oui.
Au cas où le gouvernement congolais ne paye pas, comme tout à l'heure, tu venais d'évoquer le principe de souveraineté de l'État, il est vrai que le gouvernement congolais, en tant que propriétaire des capitaux, propriétaire de tout, peut orienter le projet dans une autre manière. C'est un principe qui lui est reconnu, mais à une condition. Premièrement, d'accepter toutes les conséquences, c'est-à-dire partout où les partenaires au développement avaient investi, avec ce que le gouvernement congolais est appelé, non pas seulement à rembourser, avec intérêt direct. Voilà parce que.
Et quand on sait toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui sur les plans budgétaires à pouvoir affronter des dépenses que nous avons brusquement, est-il possible aujourd'hui que le gouvernement congolais puisse faire face à payer les trucs? Voilà autant de conséquences. Mais les auditeurs sont revenus. Nombreux estiment qu'on n'a pas intérêt à se retrouver en désaccord avec la Banque mondiale. Il faudrait plutôt discuter, améliorer s'il y a des reproches, voir comment harmoniser le point de vue et évoluer ensemble.
Moi, je pense que c'est toujours souhaitable. On est congolais. Ce qui est plus important, c'est de voir quel est l'intérêt de la République démocratique du Congo et quel est l'intérêt de nos partenaires qui nous accompagnent pour le développement. Il faut d'abord lire le plan de développement, mon ami. Le plan de développement renseigne qu'il est avantagé aux pays bénéficiaires de s'approprier de ce processus pour enfin avoir des infrastructures durables. Vous savez qu'en matière de l'énergie renouvelable, c'est parmi des sources sûres, non polluantes et de fois moins chères. Et laissez-moi vous dire que, tel qu'il renseigne dans l'étude de faisabilité, le courant d'Inga sera vendu à basse prix, c'est-à-dire à 3 centimes de dollars par mégawattheure. À un prix, je vous dis, même pas au monde entier, on peut vendre le courant à ces prix-là. Donc, vouloir ou pas, on aura toujours les gens qui vont venir acheter, même si aujourd'hui l'Afrique du Sud, entre guillemets, un peu s'est désengagée, le Nigeria. Mais je te dis, vous avez un produit, nous avons un potentiel qui ne peut à n'importe quel moment.
Voilà. Mais quand nous avons parlé des orientations, je me rappelle encore lors du passage du président de Joseph Kabila en Chine au mois de septembre dernier, le président chinois avait présenté la volonté de la Chine de pouvoir aussi s'intéresser à ces projets dans un partenariat et des résultats gagnant-gagnant. Il y a aussi l'Afrique du Sud qui s'était intéressée. Est-ce qu'on peut dire quelque part le gouvernement congolais s'est dit, mais bon, écoutez, quand bien même on pourra peut-être pas évoluer avec la Banque mondiale, mais il y a aussi d'autres partenaires, l'Afrique du Sud, les Chinois, ils peuvent y mettre des capitaux et on peut évoluer. Est-ce que cette option est envisageable?
Bon, ce qui est vrai, c'est que il y a le principe toujours. Je reviens pratiquement. Vous savez, en termes de contrat, en termes de négociation, il y a toujours des fenêtres, il y a toujours des zones d'ouverture. Le gouvernement congolais, en tant que responsable des ouvrages, c'est à lui qu'appartient toute l'initiative de se dire, à partir d'aujourd'hui, je mets terme avec la Banque mondiale. Je mets terme avec la Banque africaine de développement, la Banque de développement européenne, KfW, tous ceux qui viennent pour apporter leur appui technique au gouvernement congolais. Je dis non, pour nous prenons une autre option vers la Chine. Ça dépend. Mais nous, en tant que techniciens, vous savez, il faut le dire à haute voix. Combien de projets aujourd'hui la Chine a fait concernant la sous-région? Je ne remets pas en cause la qualité ou la technologie chinoise. Mais j'insiste toujours sur les infrastructures de base durables. Ça, c'est très important. Et qu'est-ce qui donne lieu à la présence de cette histoire? Ce n'est que la fiabilité des études. On a besoin des études sûres. Et voilà pourquoi les institutions financières telles que la Banque mondiale, telles que la Banque africaine de développement, ils optent pour le processus ouvert en matière de passation de marché. C'est-à-dire, nous recevons un certain nombre de demandes, un certain nombre de gens qui viennent soumissionner. Et partant de toutes ces demandes, on va maintenant s'offrir le meilleur. Comprenez, j'ai dit les meilleurs, les mieux s'offrant. À ce qui concerne la qualité, l'efficience et aussi un élément important, la durabilité de la chose. La Banque mondiale obéit pratiquement à ces principes. La Chine, on peut se dire aujourd'hui, oui, d'accord, les Chinois viennent. Déjà, on a eu un problème avec eux à ce qui concerne le contrat chinois. Ce sont deux mains d'œuvre et qui sont les Chinois qui le font, ce ne sont pas les Congolais. C'est déjà un problème. En deuxième lieu, vous êtes sûr, ça je le dis en tant que patriote, vous êtes sûr qu'en République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, les États-Unis d'Amérique peuvent vous laisser facilement développer cette potentialité énergétique. Parce qu'aujourd'hui, vous croyez que ce n'est rien que le courant. Mais je te dis que c'est aussi un facteur de pouvoir.
Exact.
À n'importe quel moment que vous êtes en conflit avec l'un des pays qui fait partie pratiquement de gens qui acceptaient d'acheter des courants, et vous êtes en conflit, je te dis, je te coupe. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on a développé la ligne au courant direct Matadi jusqu'à Kolwezi? Vous ne savez pas. Simplement parce que le président Marichal Mobutu à l'époque tenait à ce que les Katanga ne soient pas utilisés. Si aujourd'hui les Katanga se disent d'accord, il y a cette session, hein, donc c'est le courant qui vient du Bas-Congo. Je coupe. Donc le courant peut aussi servir un élément important.
Et la peur, c'est de voir si on oriente avec d'autres partenaires que le sérieux dans le choix, dans l'octroi des marchés puisse poser problème. Ça a été évoqué par beaucoup d'observateurs, comme ceux qui sont sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Alain Panguino, qui est ici dans les OLE, lui dit que si la Banque mondiale décide de suspendre son intervention, c'est que quelque part, il s'est rendu compte que les gouvernements
gouvernement congolais ne joue pas. Frangé Diouchabalala pose la même question, s'inquiète et estime que les gens qui sont nommés dans la structure qui doit animer les différentes, ces différents projets nommés par les gouvernements congolais, est-ce qu'ils répondent aux critères? Voilà un peu ce qui ressort de cette discussion sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Alphonse, vous, vous êtes à Roux. Vous êtes avec nous, Alphonse.
Oui, oui, Pierrot.
Mais alors, vous avez suivi les uns et les autres, mais le souhait aujourd'hui pour l'ensemble des compatriotes, notre invité les disait qu'il y a tout intérêt à pouvoir continuer les discussions entre le gouvernement et la Banque centrale, la Banque mondiale plutôt, pour qu'on ait un point de vue qui permette en fait que les projets soient crédibles. Alain les disait tout à l'heure en début d'émission, Alphonse.
Merci beaucoup, Pierrot. Tout d'abord, je salue tous les auditeurs qui nous écoutent maintenant. Alors, Pierrot, donc si nous sommes vraiment regardants et avertis la distinction de l'aide technique et financière de la Banque mondiale, on ne peut surprendre personne parce que les critères ou même les préalables d'accès à la gestion de cette projet n'ont pas été respectés ou conservés. Comme a dit l'invité. À notre humble avis, Pierrot, nous pensons que la Banque mondiale a résolu les questions de son aide. Allô, Pierrot ?
Oui, on vous écoute, Alphonse, vous êtes avec l'analyse, oui. Oui, Alphonse, vous êtes en ligne, oui.
Oui, allô, Pierrot ?
Oui, allez-y, vous êtes en ligne, on vous écoute.
Allô, Pierrot ?
Oui, apparemment, on a des petits soucis avec Alphonse qui n'a pas un retour avec nous au studio. Alphonse, vous nous écoutez ? On a des petits soucis. Alphonse ne parvient pas à... Il y a un problème d'interactivité avec Alphonse qui est à Roux. Il ne parvient pas à nous suivre. Hein. Alphonse, maintenant, c'est bon? Vous nous entendez? Vous nous suivez maintenant?
Oui, oui, Pierrot.
Oui, allez-y, oui. Continuez.
Merci beaucoup. J'étais en train de dire que si nous sommes regardés, avertis, vraiment la situation de l'aide technique et financière de la Banque mondiale ne pourrait surprendre personne parce que les critères n'ont pas été respectés, comme a souligné notre invité.
Oui.
Alors, j'étais en train de dire aussi que, à mon avis, la Banque mondiale a raison de surprendre son aide et je pense que l'État congolais n'aura pas le courage d'aller négocier la levée de cette mesure puisqu'il n'a pas respecté les clauses comme nous l'avons dit. Et il n'y a pas longtemps, Pierrot, au 27e sommet de l'Union africaine, le gouvernement africain avait déclaré une autonomie financière. Et voyons voir si la RDC va s'assumer cette fois-ci. J'estime que cette suspension d'aide de la Banque mondiale mettra en veilleuse le projet de l'INDA 3 parce que la demande même de courant était venue de l'Afrique du Sud et d'autres pays. Et nous autres, nous continuerons toujours à rester dans le noir. Et enfin, M. Pierrot, le retrait de la confiance de la Banque mondiale de notre pays doit être un signal fort pour nos politiques. Il devrait directement cesser de politiser tout comme l'ont toujours fait dans notre pays et surtout respecter la loi fondamentale. Et en plus, je leur demande de reconnaître que pour aller plus loin, on a besoin des autres, seuls, on ne fait rien. À tout ça, on ne se situe pas, Pierrot. C'est sur ce que je voulais mettre l'antenne.
Merci beaucoup, Alphonse. D'ailleurs, je rappelle cette question de l'autonomie financière pour le souhait de l'Union africaine de pouvoir diminuer le capital qui vient de l'Union européenne, qui vient des États-Unis d'Amérique. Ils ont pensé créer une taxe pour l'ensemble des pays qui va faire en que l'Union africaine puisse se financer plutôt que d'attendre toujours à l'extérieur. Mais quand on connaît aussi la situation de notre pays, notre budget a été déjà réduit, le budget 2016, vous vous rappelez bien que ça a été réduit, pensez-vous qu'on soit capable aujourd'hui, alors qu'on a eu beaucoup de problèmes pour l'organisation des élections. On sait tout ce que nous avons eu comme débat autour de cette question et les plaintes du gouvernement sur la mobilisation, la baisse des recettes du secteur minier qui a fait aujourd'hui que les budgets ont été réduits, on ne pouvait pas financer les élections. Pensez-vous qu'on soit en mesure brusquement de pouvoir prendre la charge de financer l'assistance, les travaux, de faisabilité, les études, tout ce qui devait entrer en ligne de compte dans ces projets INGA que la Banque mondiale supportait? Ça aussi, c'est une question très, très importante qu'il faudrait aujourd'hui poser au niveau du gouvernement et avoir des réponses si on est en mesure de pouvoir prendre la relève. Mais c'est ça votre inquiétude, Alphonse. Mais Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et la Mingi, bonjour à tous les amis auditeurs.
Alors quand Alphonse dit tout à l'heure que c'est un signal fort pour les politiques, parce que là il faudrait éviter la politisation des choses, estimez-vous que l'orientation, tout comme les nominations, ça a été plus provoqué, on peut dire, ça a milité plus de la politisation du projet qui est de la vie technique?
Oui, merci beaucoup, Thierry, de la parole que vous m'apportez. Je salue aussi M. l'invité qui a parlé beaucoup de bonnes choses. Je pense que Alphonse a totalement raison. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans ce projet-là, et l'autre, donc la Banque mondiale avait accepté de financer, c'était sous condition de certains préalables. C'est là que je suis en train de beaucoup regretter, Thierry, par rapport à ce qui nous est arrivé, parce que vous allez prendre compte que même ceux-là qui estiment que nous poursuivre les discussions avec la Banque mondiale, mais les discussions vont se poursuivre comment? Donc la moindre des choses au jour d'aujourd'hui, c'est de voir ce que la Banque mondiale a reproché au gouvernement congolais et que le gouvernement puisse arranger pour que les choses puissent revenir à la normale, parce que les discussions durant des discussions en discussion, ils ne se mettront jamais d'accord. Maintenant, par rapport à ce que Alphonse venait d'invoquer, oui, moi aussi je n'arrive pas à comprendre comment, et surtout que moi je suis dans le domaine judiciaire. Il y a certains financements qui arrivent, et je sais que les partenaires étrangers en matière de financement, ils ne badinent pas. Ils ont une certaine logique, un certain ordre. C'est pour cela que dans tous ces projets, ces gens-là veulent toujours qu'il y ait une certaine transparence, afin qu'ils soient sûrs que l'argent que nous débloquons va servir certainement au projet par nous ciblé. Nous prenons maintenant, donc la présidente son on met là-bas, c'est là que eux rendent compte que apparemment il n'y a pas de garantie pour que ce financement par eux débloqué puisse servir à ce projet-là de Inga. Là, c'est de un. De deux, je suis tout à fait d'accord avec M. l'invité lorsqu'il dit, suite à la question par vous lui poser, si la Banque mondiale s'est retirée, que la Chine ne devrait pas intervenir. Ça va, la Chine peut intervenir, mais il faut prendre en compte ce que l'invité a dit, la qualité de l'ouvrage. Donc la qualité, parce qu'on a vu nos amis là dans beaucoup de projets dans notre pays, tout le monde est monté au créneau pour mettre ça en cause. Que donc voilà, la qualité n'était pas du tout bonne. Là c'est de 1, et donc c'est de 2. Troisièmement, même si la Chine intervenait, même si d'autres partenaires intervenaient, mais à partir du moment où on laissera en suspens, donc ce que la Banque mondiale a reproché à notre gouvernement, nous risquerons d'être donc appelés comme si des gens moins sérieux. Et surtout que si ça n'avance pas avec un autre partenaire qui viendra, on dira quoi? On dira que non, voilà, c'est leur comportement, ils ne respectent pas les engagements et les contrats pris avec le partenaire. Donc, moi je pense, Thierry, les conséquences sont vraiment nombreuses. Ce que nous devons d'abord retenir, c'est que nous sommes le premier bénéficiaire de ce projet-là. C'est nous, ce ne sont pas les autres. Donc, eux viennent pour nous aider parce que nous n'avons pas de moyens suffisants pour réaliser un tel projet. C'est là que moi je me demande, est-ce de la mauvaise foi ou est-ce que c'est par manque d'une politique donc générale en cette matière? Parce que si on avait une politique en cette matière, l'ouvrage doit rester dans notre pays. L'invité l'a dit, l'ouvrage doit aider certaines provinces de notre pays qui sont en difficulté. L'ouvrage va aider certains pays qui avaient déjà souscrit, entre autres l'Égypte, entre autres l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et donc, c'est nous qui commencerons à toucher. Moi, je me dis tout simplement qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne sert à rien de continuer avec des débats, mais il faut tout simplement chercher à régler la situation, à régler ce que la banque
au gouvernement. Mais M. Adrien, on sait aujourd'hui que le gouvernement congolais s'est beaucoup battu dans le cadre de l'amélioration des climats des affaires, la transparence dans la partage des marchés avec une cellule de partage de marchés. Est-ce qu'on peut dire qu'à un certain moment, nous évoluons, mais quand même, nous faisons aussi le contraire de ce que nous voulons exactement. Quand on doit avoir un partenaire comme la Banque mondiale et qu'on procède à une nomination sans passer par un concours pour recruter, et alors qu'au même moment, on se bat pour l'amélioration des climats d'affaires et avec des cellules de partage des marchés. On peut dire qu'à un certain moment, nous évoluons, mais aussi en faisant le contraire de ce que nous voulons faire.
Vous avez raison, Pierrot, on ne produit pas du tout, mais nous sommes en train de poser les actes, donc nous voulons une chose.
Il y a son contraire. Et c'est pourquoi je vais demander à notre invité de placer un mot rapidement par rapport à cette question de recrutement, concours, partage des marchés, transparence. Si tu viens, pourriez-vous placer un mot rapidement avant qu'on écoute Maître Trésor et Dr. Richard?
Merci beaucoup, Pierrot. En cette matière, je crois que le plan de développement renseigne qu'on ne devait pas nommer. Non plus, on devait plutôt passer par une législation parlementaire, c'est-à-dire on devait avoir une loi, et c'est de cette loi qui sortira ce qu'on appelle l'agence de développement ADP. Et l'agence de développement, c'est telle la structure qui va faire la promotion du projet IVA 3 et sera pratiquement l'interface du gouvernement avec les concessionnaires qui vont développer en ce qui concerne le partenariat public-privé. Donc, en ce qui concerne la nomination, ben, c'est vrai c'est que ça a étonné tout le monde, ça a étonné la Banque mondiale, ça a étonné le Congolais, ça a étonné la société civile, tout le monde, et on ne pouvait pas procéder comme ça. C'est pratiquement un enfant qui est né sans qu'il y ait grossesse, sans qu'il y ait... Bon, l'enfant est sorti comment? Pas de parrain. Donc, il fallait qu'il y ait une loi INGA. Pourquoi de cette loi INGA? La loi INGA devait préserver les intérêts stratégiques, économiques et financiers de la République démocratique du Congo et le contrôle étatique, on a dit approprié. Le contrôle étatique approprié. Et assurer l'attractivité et la bancabilité pour le partenaire privé de l'état du projet concerné. Comprenez au moins cette législation, ce qu'elle devait comprendre. Et le principe qui devait guider l'élaboration de loi IVA, premièrement, dit l'équilibre entre les intérêts de l'État et les autres parties prenantes. Il y a également ce qu'on appelle l'amélioration des capacités institutionnelles du pays par la création d'ADP. Donc l'ADP vient pour améliorer. C'est-à-dire les animateurs, pratiquement, c'est vrai, peuvent sortir de n'importe quel coin, mais sous contrôle étatique du gouvernement. Voilà pratiquement la
mais est-ce qu'on on peut dire la grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est une question aussi d'intérêt, hein, quand on estime qu'il y a une structure qui doit, un projet qui doit être géré, qui doit gérer des fonds en termes des milliards, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau de la primature, au niveau des profils ministères, on peut se dire voilà, autant mieux avoir une personne qui peut être comme mon œil pour pouvoir surveiller ce qui se passe, parce que c'est une question aussi d'intérêt, de capitaux, de beaucoup d'argent.
Ce qui est vrai, c'est que si nous lisons la lettre de politique générale du Premier ministre adressée aux partenaires au développement, ça a été clair. C'est-à-dire, si concernant la structuration du projet, on doit mettre une agence autonome. Cette agence autonome, c'est vrai que le gouvernement congolais, pour des cas d'efficacité, va accepter, non pas de renoncer à son droit, mais on a dit pour des raisons d'efficacité. Le gouvernement congolais a besoin d'argent. Donc nous laissons, c'est comme on a fait avec la SNL, qu'est-ce qu'on a fait, on a libéralisé. On libéralise, puis on prend la SNL comme étant partenaire qui est appelé à se battre. Par exemple, l'avènement, bien évidemment, avec la promulgation de la loi sur l'électricité, où le partenaire privé peut rentrer. C'est comme ça, c'est avec le projet IVA. Donc cette agence-là, je vous dis que ce n'est pas quelque chose. Ça doit comporter des experts, des Congolais, tous ces mots que vous savez, non pas seulement pour la promotion du site, ça demande beaucoup d'argent, énormément d'argent. Donc, du coup, pour Ingra Trabachit, avec 8 ou à 12 milliards de dollars, c'est pas facile. Et passer avec Ingra 3 au-dessus, avec 7800 mégawatts, je ne sais pas. Il faudra maintenant le gouvernement congolais dans la structuration. Insister à ce qui concerne les ouvrages, de la prise d'eau jusqu'au niveau du barrage, le gouvernement a accepté de financer, sachant que le gouvernement est accompagné de ses partenaires. Donc pourquoi? Pour déjà s'assurer des prochaines centrales qui doivent arriver. Parce qu'au niveau du bassin de retenue, si on n'est pas sûr qu'on aura assez d'eau, si on n'est pas sûr que l'avenir de Inga 1 et Inga 2 risque d'être hypothéqué parce qu'en amont, on doit dévier de l'eau. Vous comprenez? Donc, ce sont là des prudences.
On va revenir un peu rapidement. Maître Trésor, vous êtes quelqu'un qui dit ça. Pensez-vous que, on peut dire qu'il y a une forme de légèreté? L'invité, quand il présente la situation, c'est sérieux, il faut vraiment un travail de fond. Mais des fois, les procédures que nous utilisons sur le plan politique, ça peut voir comme si les dossiers pouvaient être résolus avec une discussion en dessous d'un arbre et comme ça on trouve des solutions, Maître Trésor.
Ok, merci beaucoup pour la parole que vous m'avez faite, Monsieur Perrault. Je saurais vous dire ceci. Ce projet qui est un grand projet d'une grande valeur, il va falloir que le gouvernement congolais puisse mettre tous les moyens afin de convaincre la Banque mondiale pour que cette dernière puisse revisiter ou revoir en fait la décision qu'elle a prise. Le problème à niveau se pose. Au niveau de ce que nous faisons au jour le jour, ce qui est connu de nous. Nous sommes taxés au niveau international, de l'insérieux, le gouvernement congolais est mal connu. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a à tout moment des décisions prises dans ce sens-là. Ce que moi je veux vous dire, c'est quoi? Il s'agit là d'un contrat. D'un contrat qui unit deux parties. Il y a la partie forte qui est la Banque mondiale et la partie faible qui est le gouvernement congolais parce qu'il est en train de solliciter quelque chose auprès de la Banque mondiale. Mais pour que la Banque mondiale puisse liquider, donc vous donner quelque chose, il faut qu'elle puisse examiner, qu'elle se rende compte à la langue et qu'elle aura aussi à gagner quelque chose. Si par ricochet elle trouve qu'elle ne pourra rien gagner, c'est pour cela qu'elle peut déclarer qu'on les retrait. Comme c'est le cas avec ce que nous venons de voir. Donc moi je demande aux politiciens, au gouvernement congolais, de faire ou d'engager une certaine discussion avec la Banque mondiale pour que cette décision soit en quelque sorte levée afin que nous puissions bénéficier de cette banque-là, quelque chose. Quand même, le projet va aider l'État, ils vont nous aider, ça pourra aider la République démocratique du Congo, parce qu'avec du courant, l'électricité, ça peut faire en sorte que l'ensemble du territoire national congolais, comme par exemple,
merci beaucoup, docteur
Richard, vous êtes ici avec moi, Kinshasa, vous allez intervenir et puis on va aussi vous garder juste après le flash. Placez d'abord votre premier mot, docteur Richard, autour de cette question.
Oui, bonjour Pierrot, merci pour la parole. Mon problème d'abord, c'est pourquoi avons-nous l'habitude de cracher sur l'histoire? Parce que l'invité dit, que j'ai salué d'ailleurs, que le gouvernement a initié. Mais ce n'est pas le gouvernement. Ce sont des pères qui ont laissé le dossier de Pinga. Et le premier à faire la première mise en œuvre, c'était Mobutu. Dieu merci, il a cité Mobutu dans le courant Inga Shaba. Ça, c'est un. Deuxièmement, on dit donc, c'est pour combattre la pauvreté. Quelle est cette ressource qui a résolu le problème de pauvreté du Congo, congolais, depuis 7 ans jusqu'à aujourd'hui?
Docteur Richard, on vous garde. On revient à vous. Merci. Juste après le flash information des Radio Capi. L'ensemble des auditeurs, on vous retrouve tout juste après 2 minutes des flash information sur les antennes de Radio Capi.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons pour cette deuxième et dernière partie des paroles aux auditeurs. Docteur Richard, vous étiez en train d'évoquer la question de la lutte contre la pauvreté avec les ressources énergétiques. Hein. Mais si on revient au fond du problème, c'est que la Banque mondiale se retire parce qu'on estime que le gouvernement congolais a pris une orientation qui n'était pas celle qui était convenue dans la nomination, passation des marchés. Voilà, beaucoup de choses ont été reprochées. Alors, continuez votre argumentaire et concluez, Docteur Richard.
Oui, merci pour la parole. Je disais ceci, que on doit respecter l'histoire d'abord et dire la vérité. Le gouvernement congolais n'a pas initié ce projet. C'est un projet laissé par les Belges, exécuté pour la première fois par Mobutu. Il faut que l'histoire soit respectée. Il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires comme on dit, première élection démocratique 2006, alors qu'en 1957, il y a eu des élections démocratiques. Alors, deuxièmement, on dit pour nous rendre riches, combattre la pauvreté. Quelles sont les richesses du Congo qui ont rendu le Congolais riche? Le coltan de l'État a rendu le Rwanda riche. Le Rwanda achète des avions neufs. Nous allons dans la friperie des avions. C'est ça. Alors, troisièmement, lorsque nous ne respectons pas nos propres taxes, à l'occurrence
la Constitution. Comment on peut respecter des clauses signées avec des partenaires internationaux? Ça saute aux yeux. Ça montre que nous ne sommes pas sérieux. La gouvernance, elle est encore, n'était pas au niveau de l'école maternelle. C'est ça le grand problème. Hein? Donc, on est encore dans une gouvernance, on doit nous guider avec le fouet. C'est honteux, ça.
Alors, ça, merci. Voilà, merci, docteur Richard. On comprend le souci que vous avez, c'est de voir les choses améliorer, améliorer notre gouvernance. C'est l'objectif même de tous les débats que nous faisons avec vous. Mais pour revenir au projet, vous avez dit que c'est pas le gouvernement qui a initié. Quand on parle d'Inga, c'est un monstre qui a commencé depuis deux années. Mais en termes de projet Inga 3, quand on le dit maintenant qui est initié par le gouvernement, la Banque mondiale, c'est ce qui s'est fait en ce moment. Mais Inga, en tant qu'Inga qui existe, c'est pas aujourd'hui qu'on a parlé d'Inga. C'est depuis des générations qu'on parle d'Inga. Mais pour ce projet Inga 3 que nous parlons maintenant, il a été initié, l'historique a été présenté par notre invité. Mais Inga, tel qu'il existe, c'est depuis des générations qu'on parle d'Inga et que des choses ont été initiées. Merci beaucoup, docteur Richard. Élie Lokwa, qui nous a écrit tout à l'heure sur la page Facebook de Mbandaka, il dit ceci, j'exhorte la Banque mondiale à pouvoir revenir sur sa décision, parce que notre potentiel hydroélectrique a besoin vraiment d'être développé pour permettre à la population d'accéder à l'électricité. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est notre gouvernement qui doit aussi respecter ses engagements avec les partenaires internationaux. C'est uniquement de cette façon que nous serons traités de crédibles. Jean-Marie Chimanga, pour ces derniers temps, toute suspension des projets revient bien sûr à la politique des bidouillages de notre gouvernement. Les investisseurs ne peuvent pas continuer à travailler dans un pays où le climat politique est instable. À mon avis, cette suspension vient quelque part dans le cadre d'une lutte contre la façon dont les choses sont gérées dans notre pays. Alors, nous revenons à vous, Tite Liongui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vous qui êtes dans ces projets comme expert, est-ce que le gouvernement, depuis l'annonce de la Banque mondiale, a-t-il initié d'autres réflexions? Avez-vous une information sur un travail qui a été fait par le gouvernement ou ça, des discussions avec d'autres partenaires ou même avec la Banque mondiale? Parce que nous, au niveau de Radio Capi, on a eu du mal à pouvoir atteindre les officiels pour parler. Plusieurs fois, on nous a dit de pouvoir contacter au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement. On a eu vraiment beaucoup de difficultés pour savoir aujourd'hui à quel niveau ce que le gouvernement pense depuis que cette annonce a été rendue publique par la Banque mondiale.
Pierrot, je crois que cela revient pratiquement au gouvernement de chercher de moyens, de voies de moyens pour que le partenaire revienne. La Banque mondiale, dans son communiqué, a été claire. Nous sommes à côté du gouvernement congolais pour faciliter au pays de se doter des infrastructures durables.
Mm-hmm.
Alors, le gouvernement, comme on l'a travaillé le ministère des Finances, effectivement, il y a une cellule de suivi qui est chaque fois là à côté de la Banque mondiale pour tenter de voir, de répondre aux différentes préoccupations telles que présentées par la Banque mondiale. Laissez-moi vous dire que l'histoire ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait une semaine que l'opinion a constaté que le Conseil d'administration de la Banque mondiale a pris une décision. Mais déjà, au niveau régional, le directeur résident de la Banque mondiale avait déjà suspendu, avait écrit au ministère des Finances pour dire que nous ne sommes plus en mesure de soutenir ce projet vu tel que énoncé dans ses principes. Mais le gouvernement congolais travaille. On ne peut pas dire que le gouvernement congolais a croisé ses bras, non. Le ministre des Finances travaille d'arrache-pied avec les experts pour discuter avec la Banque mondiale, pour voir dans quelle mesure la Banque peut encore intégrer pour développer, chercher le bonheur à notre population.
Mmh. Et quand on regarde, que ce soit assez loin, parce que dans ces communiqués, non seulement on parle de ces projets Inga 3, mais d'autres infrastructures hydroélectriques des tailles moyennes de la RDC, dès lors que nous savons que la RDC dépend vraiment de son potentiel hydroélectrique pour développer cette secteur. Nous avons vu le plan de développement de la RDC qui est, nous avions débattu dans cette émission. L'idée même de pouvoir atteindre l'émergence en 2030, mais sans passer par le développement d'électricité, ça un problème très très sérieux. Madame Josephine, vous nous appelez de Boston aux États-Unis d'Amérique. Bonjour, ça fait quand même quelques jours qu'on a eu des difficultés à pouvoir vous joindre. Merci d'être avec nous. On vous écoute, madame. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Radio Capi. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Hein. Je vais dire ceci. Tout d'un coup, tout s'arrête. il y a la Banque mondiale qui refuse quelque chose qu'il avait accepté, qu'il avait accepté avant. Moi, je vais dire c'est la politique qui fixe tout. Hein, quand dans votre maison vous vous battez et tout, les voisins vont commencer à fuir, surtout si vous jetez et surtout s'il y a le mari ou bien la femme qui possède une arme. Tu vois, tout le monde va fuir. C'est ce qui arrive au Congo. Moi, je crois que quand la vie politique va se calmer, tout le monde va venir et on verra le soleil, on verra la lumière à la fin du tunnel. Alors, nous devons tout faire pour calmer la politique qui est chez nous. Et puis, nous verrons tout le monde qui va venir nous suivre encore. Merci beaucoup. Je ne vais pas être longue aujourd'hui.
Merci
beaucoup de m'avoir passé la parole.
Merci beaucoup, Madame Josephine. Vous estimez que tout dépend de la situation politique. S'il y a la stabilité politique, toutes ces questions peuvent être résolues. Les partenaires peuvent revenir. La Banque mondiale peut revenir au cas où il y a une stabilité politique. On va terminer avec vous, Bintou. Vous nous appelez l'équipe qui est dans le Congo central. Bonjour et bienvenue dans cet échange. Bintou, oui, Bintou, vous êtes avec nous. On vous écoute.
Et nous sommes ensemble. Bonjour à tous les auditeurs.
Oui, Bintou, on vous écoute. Vous êtes avec nous.
Mon point de vue, c'est le projet Inga. D'abord, nous devons. Le premier point sur lequel je voudrais intervenir, c'est que la suspension du financement de la Banque mondiale au projet Inga 3. N'est-ce pas le début de la fin du régime en place? Étant donné que le régime en place tend déjà vers la fin et que les institutions internationales fonctionnent souvent en harmonie avec les dirigeants occidentaux. Lorsque les dirigeants occidentaux commencent des problèmes avec un régime, généralement ce sont les institutions internationales qui exécutent ces projets-là pour remettre en cause des partenariats qui existent entre un régime finissant et un régime au début. Et nous avons connu ce genre de problème avec la fin du régime Mobutu. Ce sont des signes annonciateurs de la fin du régime. Ça, c'est le premier point, c'est mon premier constat. Le deuxième constat, c'est que la FBC n'a pas de moyens de financer le projet Inga 3. Mais si nous avons une certaine expertise, mais cette expertise-là n'est pas suffisante pour arriver à des conclusions pouvant nous permettre à exploiter Inga 3. Puisque Inga qui existe, pour leur maintenance et pour leur fonctionnement, nous avons toujours fait appel à des partenaires extérieurs depuis l'installation de ces.
Alors, Bintou, dommage qu'on ne sera pas les plus loin parce que là, on va permettre à notre invité de pouvoir conclure qu'il y a un autre programme qui vient juste après. Mais je retiens quand même, dans votre argumentaire, vous estimez que le fait que la Banque mondiale se retire, c'est une façon générale où on montre qu'on est à la fin du régime. Mais rappelons quand même que les régimes sont représentés par des personnes. Les personnes peuvent passer, ils vont passer, mais les institutions restent. On peut négocier avec un régime, qu'il soit finissant, qu'il soit au début, mais dès lors que les hommes vont passer et que les institutions vont continuer, la Banque mondiale va toujours exister. Elle peut continuer à négocier, à travailler avec ceux qui vont animer les institutions prochainement, mais pour vous, vous estimez que c'est plus politique que technique. Merci, Bintou. On revient à vous, Tite Lyongui, pour conclure cet échange. Les soucis des uns et des autres, c'est de voir les gouvernements revoir sa façon de traiter ses partenariats avec la Banque mondiale, mais aussi que les discussions reprennent et qu'on espère que ces projets puissent se réaliser parce qu'il est bénéfique non seulement pour la RDC, mais pour l'intégration même, notre intégration au niveau de l'Afrique.
Merci beaucoup. Pratiquement, ce concerne la conclusion, le souhait pratiquement de voir ces bijoux, ces dons, les scandales que Dieu nous donne. S'il faut voir notre cascade des Inga, c'est une chose que nous devons tout faire pour maximiser pratiquement ces projets. Et à ce qui concerne la position du gouvernement, n'oubliez pas qu'effectivement, il y a un principe en droit qui dit le principe de souveraineté. L'autorité congolaise peut à n'importe quel moment réorienter le projet à une condition, à moins qu'on discute sur le plan interne, que la société civile soit impliquée, que les experts voient est-ce que réellement l'autre partie, l'autre orientation peut-elle apporter du bonheur aux Congolais ou pas. c'est pratiquement des questions que nous nous posons et les souhaits pratiquement est de voir tous les partenaires se mettre autour du même table pour enfin donner la chance aux gouvernements.
Merci Tite Nyongi, je rappelle aux auditeurs que vous êtes expert en suivi, évaluation et communication à la cellule de gestion du projet INDATOI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux à commenter ces sujets, mais la discussion s'est poursuivie sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Merci à toute l'équipe des productions. Marcel Ngomomba Lakeba était au standard et à la réalisation. Dieudonné Ngassa était à la mise en onde de ces magazines que Pierrot et la Mégie a eu le réel plaisir de vous présenter sous la supervision de Martin Seboujangoué. Mais l'émission est sur www.radiocapi.net. Au revoir.